Une vie, une œuvre, merci d'être avec nous pour une émission consacrée aujourd'hui au plus célèbre des jardiniers français, André Le Nôtre, 1613-1700. André Le Nôtre n'est pas né dans la noblesse. Il a gagné ses titres qui sont venus couronner une longue et riche carrière. Et quand Louis XIV lui a demandé de quelles armes il souhaitait orner son blason, son jardinier favori s'est contenté de demander le dessin de trois limaçons. Voilà qui montre bien toute l'ironie et en même temps la modestie, peut-être feinte d'ailleurs, de celui qu'on surnommait Bonhomme Le Nôtre. Modestie de ce jardinier qui a maîtrisé mieux que quiconque avant lui la conception des parcs et des jardins, en devenant bien avant que le mot n'existe un véritable paysagiste, modestie encore d'un homme qui exerçait un métier considéré comme manuel et par là même déclassé et qui pourtant a élevé son artisanat au rang d'art. Ironie enfin d'un personnage capable de rire de lui-même, d'étonner, de briller à la cour et de se faire aimer du roi, échappant à toutes les disgrâces alors qu'il aurait pu être emporté par de nombreux oukases, notamment au moment de la déchéance de Fouquet alors qu'il travaillait pour lui. C'est de lui dont nous parlons aujourd'hui dans Une vie, une œuvre. Mathieu Garrigou-Lagrange, Marie-Laure Ciboulet. Jean-Pierre Le Dantec, nous sommes ici sur un axe qui a été tracé au XVIIe siècle, alors qu'on est à la Défense, sous la Grande Arche, par André Le Nôtre.
Oui, c'est vrai, c'est l'axe qui commence aux Tuileries et qui, à son époque, se prolonger vers la colline, qui est maintenant celle de l'Arc de Triomphe, hein, de l'Étoile, mais qui a évidemment à l'époque n'existait pas comme telle. Donc c'est un début de tracé.
Initialement, il s'agissait de créer une route directe pour que le roi puisse aller de Paris, donc du Louvre, résidence royale, à Saint-Germain-en-Laye, la ville où il est né. Parce que quand on trace l'axe central qui part des Tuileries et qui suit les Champs-Élysées actuels, si on prolonge cet axe, en fait, on arrive à Saint-Germain-en-Laye. Et bon, après, lorsque le roi s'installe à Versailles, il s'agissait aussi de pouvoir relier Paris assez facilement par rapport à Versailles.
C'est effectivement une œuvre de Le Nôtre et qui s'est prolongée dans l'histoire par différents jalons. Lorsque l'Arc de Triomphe a été créé, voilà, une nouvelle ponctuation auprès des Champs-Élysées, puis ça s'est prolongé sous l'Arche de la Défense, qui montre bien la force incroyable d'un tracé et d'une vision, la vision territoriale qu'avait ce jardinier, qui n'est pas seulement un jardinier d'ailleurs, mais quasiment un urbaniste, ou en tout cas quelqu'un qui pense l'aménagement territorial.
C'est beau la ici défense, pour vous
pas tellement. Plus exactement, je pense qu'il y a là un problème urbain qu'on a dû énormément de mal à résoudre, qui est le problème qui vient d'un héritage des années 60, qui est la dalle. Je ne pense pas que ça soit dans la pensée de Le Nôtre, de fabriquer un faux sol pour porter des ouvrages. Mais bon,
Oui, donc là, il aurait été mécontent. Il aurait dit que c'était une trahison de son tracé.
Je n'ai pas le droit de prétendre parler à sa place, mais il me semble que c'est assez contraire à la manière dont il s'emparait des sites. Mais il reste qu'il y a là quand même un cadrage du fait des objets tours qui encadrent le grand axe et qui ne bougent pas la perspective, au contraire. Si on se retourne, on va voir vers Nanterre une perspective qui, elle aussi, se dessine assez bien. Je suis prêt à parier que cet axe se prolongera par la suite. Et ira-t-il jusqu'à la mer ?
Le Nôtre prenait donc en compte l'ensemble du territoire dans lequel s'inscrivaient ses jardins. On le constate également dans le parc du château de Versailles que nous visitons avec Jacques Coulon, paysagiste.
Ce qui est fantastique ici, c'est que le parc en profite autant derrière des collines de Satory que du parc lui-même. On ne l'imagine pas avec derrière complètement autre chose. Ça ne serait pas possible. Ça fait partie du parc. Et la manière forte qu'a eu Le Nôtre, dans le fond, et on le voit tout autour, c'est qu'on a au loin ces collines avec ces boisements, chênes, pins, enfin bon, qui signalent un peu ce qu'est le site, un site un peu acide, souvent sablonneux autour, marécageux en bas, et on a un regard nature. On regarde en face, on a un regard agricole.
Parce que ce sont des champs, c'est ça ?
Bah parce qu'au loin, ça finit dans des champs, on ne voit pas très bien d'ici, effectivement, mais c'était une plaine agricole, au temps de Le Nôtre. Mais aujourd'hui, elle est encore pas mal. Et puis on se retourne et on sait que c'est la ville qui est derrière. C'est-à-dire qu'il y a une partie extrêmement construite. Et tout ça est dans une logique, c'est pas un ailleurs, c'est pas quelque chose où on a essayé d'isoler dans un endroit particulier la question du jardin. En fait, le jardin, c'était une attitude générale de gestion du territoire.
Donc c'est toute la France alors qu'on voit.
C'est toute la France. Et c'est aller-retour, agriculture, parc, et pour moi, décisif. Si on ne fait pas cette liaison-là, on manque quelque chose.
Ce n'est pas un hasard si le nôtre a axé son travail sur la colline de l'Étoile. Il avait toujours la volonté d'intégrer dans ses tracés, dans son tracé principal, l'horizon. L'horizon, parce que ça faisait partie de sa pensée du paysage. Je pense qu'on pourrait ici faire une petite allusion à un paysagiste français contemporain, Corajou, qui dit que le paysage, c'est l'endroit où le ciel et la terre se touchent. Et ça, c'est vraiment une vision que le nôtre a profondément en lui. Il n'y a jamais de vue bornée. Et par conséquent, ça s'inscrit dans le ciel. Regardez, quand on est ici, dans cet axe, comment l'Arc de Triomphe, qui évidemment n'était pas là, mais comment il s'inscrit dans le ciel, et le ciel faisant évidemment partie de la géographie et du site.
On a aussi vu le nôtre comme un adepte du minimalisme, du structuralisme, enfin de théories qui correspondent plutôt à une architecture du XXe siècle plutôt qu'à l'âge baroque. Est-ce que c'est votre avis aussi, Jean-Pierre Le Dantec ?
Oui, tout à fait. C'est un paysagiste américain, Peter Walker, qui a énoncé avec force que, selon lui, le grand précurseur du minimalisme, celui qui continue à lui l'inspirer de cet art qui est en même temps du land art, très souvent, et une manière justement d'écrire sur la peau de la terre des phrases ordonnées, eh bien, Peter Walker a fait remarquer que le nôtre, pour lui, c'était le maître de cela. Et que par conséquent, c'est un moderne. C'est un moderne dans lequel on peut continuer à se reconnaître.
En quoi il est minimal ?
Les endroits où on le sentira peut-être le mieux, c'est si vous visitez les jardins de Versailles, par exemple, sous la neige. Vous allez avoir une autre sensation. Vous allez avoir une sensation très pure et très épurée. Et il ne reste plus que les plis du sol et les axes, les perspectives.
À Versailles, Jacques Coulon.
Pour redonner le sens le plus puissant de Versailles, qui est justement ces rapports de structure, il ne faut pas être encombré par toutes les modénatures qui sont des modénatures datées. Ces sculptures, celles qui sont longues, que vous voyez qui sont bâchées là, moi elles m'intéressent beaucoup quand elles sont bâchées. Autrement, je les trouve très laides personnellement. Et quand, en hiver, on se balade et qu'on voit ces sculptures emmaillotées, ça nous permet de gommer ce qui n'est plus vraiment dans notre culture directe. C'est une modénature, c'est démodé. Et de les ramener dans une abstraction qui les rend contemporaines et qui nous permet de les lire pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des balises, des bornes. Des choses qui vont tenir des ans. Vous voyez, ce pot, c'est intéressant, ça le rentre dans notre culture. C'est devenu un cristaux, en fait.
Parce qu'il est
de
emballé.
La même manière, parce que c'est emballé, mais en même temps, parce que ça nous permet de le regarder. Comme on a redécouvert la forme du pont neuf, quand le cristaux l'a emballé.
Alors, il y a... quand on se balade aux quatre coins du monde, comme vous l'avez fait Jean-Pierre Le Dantec, partout vous retrouvez des héritages de Lenôtre, Washington, mais aussi le mémorial du 11 septembre à New York, aussi Buenos Aires. Enfin, à chaque fois qu'il y a des grands axes, une monumentalité, on peut dire que c'est Lenôtre qui a été l'un des inspirateurs de ces plans-là.
Bon, évidemment, on lui accorde beaucoup. Hein, on lui a beaucoup accordé aussi à certaines époques, sur des jardins qui ressemblaient à le nôtre. Bon. Donc, il ne faut pas quand même lui prêter un pouvoir omnipotent. Mais il est vrai que donc il y a en propre une école française de l'urbanisme qui a retenu profondément les leçons de le nôtre, y compris lorsque... Par exemple, quelque chose qui a l'air d'assez différent a priori, à savoir les tracés haussmanniens, les percées d'Haussmann, évidemment, s'inspirent aussi sont influencés plus directement par ce type de pensée qui relie entre eux des monuments. Un urbaniste français de la première moitié du XXe siècle a critiqué cela d'ailleurs, a dit que c'était des monuments cibles, hein, en disant que lorsque c'était fait par le nôtre, ou dans un esprit proche de celui de l'autre, c'était merveilleux, et qu'autrement, c'était un peu moins réussi.
Alors, qu'est-ce qui différencie un monument cible d'un monument en point de vue, comme le nôtre le souhaiterait ?
La liaison directe entre deux monuments, elle peut se faire de deux manières. Ou bien elle s'impose sur le sol, sur le territoire, ou bien elle compose avec lui. Et le propre du jardinier, comme le nôtre, c'est de savoir s'inscrire vraiment dans le site, c'est de penser ce que moi j'appelle le génie du site.
Patricia Bouchenaud-Deschin, au moment de la naissance de Le Nôtre, sa famille habite depuis plus de 30 ans une petite maison dans le jardin des Tuileries. Alors, pour les gens qui habitent à Paris en ce moment, ça paraît un petit peu étrange. À quoi ça ressemble ce coin de Paris à ce moment-là ?
C'est un monde clos qui était très intéressant parce qu'il y avait plein de maisons qui étaient dans ce monde clos. Et parmi elles, il y avait entre autres la maison où effectivement son père et vraisemblablement son grand-père. Là, je dirais qu'il faut être extrêmement prudent parce que les sources disent bien dans une des maisons des Tuileries, en même temps, il y aura des moments où elles sont détruites. Tout ça, ce sont des maisons qui appartiennent au roi et qui sont prêtées aux officiers du roi ou tous ceux qui ont des charges. Et donc, ce sont des choses un petit peu mouvantes. Il ne faut pas trop se focaliser sur un endroit. En revanche, on connaît vraiment sa maison où il habitait ensuite à partir de 1665.
Comment est-ce qu'on peut imaginer la vie dans cet endroit qui est très particulier parce que c'est à la fois très proche de la cour, alors le roi Louis XIII, qui paraît-il aimait bien jardiner, se promener là, et en 1613, le nôtre naît dans cette atmosphère. Alors finalement, à quoi cela ressemble quand il a 10 ans, 15 ans, 20 ans ?
D'abord, c'est un jardin qui est en perpétuel changement. C'est un jardin où il y a une ménagerie avec des bêtes sauvages. C'est un jardin où vous avez un peu plus loin des jardins particuliers, un peu étonnants, comme ceux de Gilles Renard, qui était un jardin avec des collections de plantes tenues par un de ses oncles. C'était un jardin où vous aviez non seulement la présence de la famille royale, mais vous aviez aussi non loin le manège, ce fameux manège de la Grande Écurie, qui est un monde aussi à lui tout seul, au moins aussi important que tous ces ateliers qui étaient sous la Grande Galerie du Louvre, un peu plus loin. Et tout ça, ça a complètement imprégné l'univers de Le Nôtre.
Et oui, puisque depuis le début du XVIIe siècle, vous avez des ateliers d'artistes qui habitent dans le Louvre.
Dominique Garrigue, historien des jardins et des jardiniers.
Cette galerie qu'on appelle la galerie du bord de l'eau, qui existe encore et qui borde la Seine. Mais il n'y a pas que des artistes, hein. Il y a aussi des scientifiques. Vous avez des fabricants de map-monde, donc vous avez des spécialistes en optique, des fabricants d'instruments de mesure optique. Vous avez des sculpteurs, des peintres. Mais c'est vrai que le nôtre est né dans ce milieu des jardiniers parisiens qui ont, je dirais, officié dans ce véritable laboratoire du jardin à la française que constitue le jardin des Tuileries.
Le nôtre, quand il naît en 1613, c'est pas un personnage d'une famille quelconque. Son père, Jean, est déjà jardinier du roi et surtout est dessinateur du roi. Et donc, à l'époque, il faut savoir qu'il y a plusieurs centaines de jardiniers dans Paris. Il n'y en a qu'une poignée, moins d'une dizaine, qui sont jardiniers du roi. C'est une véritable charge qu'on hérite et qui est aussi un honneur. Et dessinateur des jardins du roi, il n'y en a que deux, Jean et son ami Claude Mollet. Alors, si vous voulez, ça fait un univers où déjà les cartes sont bien distribuées. On a le nôtre qui est un héritier de charge, avec une famille qui déjà a pris son envol. Son père, fou, a choisi un parrain qui est André Bérard de Maisoncelles, qui est chargé d'accréditer les officiers du roi dans leurs fonctions. Et puis la marraine, elle est très intéressante, c'est la femme de Claude Mollet. Claude Mollet est très 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 connu dans le monde des jardins à cette époque-là, puisqu'il était dit qu'il était premier jardinier du roi.
Ça signifie, Patricia Bouchenaud-Deschin, que dès sa naissance, André Le Nôtre est destiné
à être jardinier du roi. Alors peut-être pas à révolutionner comme il le fera l'art des jardins, mais en tous les cas, son métier est d'ores et déjà décidé pour lui.
Absolument. Vous savez, dans la société d'Ancien Régime, quand on a la chance d'être héritier de charges comme celle-ci, c'est une chance inouïe. C'est un véritable, je dirais, ascenseur social. On est près de la cour, on est à la cour, on vit avec cette cour, et elle est la source à la fois de grâce, d'opportunité, de mésaventures. Hein. C'est un monde qui est cruel, féroce, avec ses règles, etc. Mais c'est quand même une chance. On ne demande pas à un enfant, mon chéri, est-ce que tu as envie d'être ceci ou cela, surtout quand il y a cette place et surtout quand on a les compétences pour le devenir. Et j'ajouterai une chose supplémentaire, c'est qu'en plus, Jean le Nôtre a non seulement...
Donc le père d'André.
Oui, le père d'André a non seulement un fils... Il en a perdu un autre, mais aussi des filles, qu'il va très bien marier, ce qui va lui faire un réseau de collaborateurs qu'il ajoute à ses propres cousins. Et donc, ça fait comme une mini-agence, le mot est trop moderne, mais qui existe déjà à un point tel qu'il a une clientèle prestigieuse.
Il doit beaucoup à son père.
Le Nôtre doit tellement à son père que, comme le racontent plusieurs mémorialistes, à la fin de sa vie, pour la dernière fois, il ira à Marly, quelques semaines avant sa mort, et il se promènera avec le roi, il dira à mon pauvre père, si tu me voyais me promener à côté du plus grand roi du monde. C'est évident que la dette auprès du père est immense, et elle est, je dirais, d'autant plus immense que le père a une ambition très, très importante, voire démesurée. Donc c'est quelqu'un qui a vu à grande échelle, qui va beaucoup investir pour les jardins qu'il va faire, jusqu'à faire construire une immense orangerie pour stocker des matériaux et des plantes fragiles à fournir pour les différents commanditaires. Il va tellement dépenser, et pour cela qu'il va faire faillite. Et la faillite à l'époque, c'est une mesure infamante. On porte le bonnet vert à l'époque, c'est vraiment terrifiant. C'est terrifiant, ça existe dans toute la France, ça n'a été aboli que depuis 10 ans dans Paris, donc lui n'aura pas à le porter, mais du jour au lendemain, eh bien, il n'est plus jardinier du roi. Ce titre, en fait, la fonction va être prise directement par André Le Nôtre. On est en 39, c'est la veille de son mariage, et ça explique, entre autres, tout son parcours ensuite.
Je pense qu'il a appris à dessiner auprès de son père, mais ça, évidemment, c'est une supposition parce qu'on n'en a pas de preuves.
Aurélia Rostin, docteur en histoire de l'art.
Mais son père était lui-même dessinateur des jardins du roi, et on sait, grâce à des marchés, qu'il plantait des parterres et des bosquets dont il avait donné le dessin au commanditaire. C'est spécifié dans les actes notariés. Donc son père dessinait, et il est très probable qu'il ait appris à son fils à dessiner. Maintenant, si Le Nôtre, alors qu'il avait une petite vingtaine d'années, a travaillé auprès de Simon Vouet, le premier peintre de Louis XIII, c'était très certainement pour se perfectionner, mais je pense qu'il savait déjà dessiner, parce que sinon Simon Vouet ne l'aurait pas pris dans son atelier.
Pourquoi va-t-il aller chez Simon Vouet, ce peintre qui est le chantre du renouveau, qui arrive d'Italie? Il est nommé premier peintre du roi Louis XIII. Vouet fait partie de ces quelques curieux qui intéressent Jean le Nôtre et qui est passionné par des anamorphoses. Il y a un dessin très connu de Vouet, qui est une sanguine, qui représente un jardin. Et dans ce jardin, vous avez une table en marbre, et autour, vous avez des satyres. Et ces satyres regardent la table, et sont tout étonnés. Vous savez, ils regardent dessus, ils regardent dessous, etc. Ils ne comprennent pas. Et sur la table, vous avez une espèce de gribouillis, comme un tourbillon. Et au milieu, vous avez un cylindre. Ce cylindre, c'est un miroir. Et ce tourbillon qui est sur la table, quand il se réfléchit dans le miroir, il forme un éléphant. Un éléphant d'Asie. Qu'est-ce qui est intéressant pour l'art de Le Nôtre dans cette affaire? Et l'art des Le Nôtre, c'est que, en fait, faire un jardin à petite échelle, c'est pas très compliqué. Vous n'avez pas de déformation d'ordre optique qui s'opère. Dès que vous commencez à avoir une grande échelle, je dirais, votre allée ou votre parterre commence à partir dans tous les sens. Et pour peu que votre terrain ne soit pas plat comme un plan, ce qui est quand même la règle générale, eh bien, alors là, vous vous retrouvez face à des formes qui sont complètement déformées. Alors, comment avoir des formes déformées en apparence et les transformer en une forme parfaite? Eh bien, c'est tout l'enjeu du passage de Le Nôtre chez Vouet.
C'est un siècle aussi, je dirais, où on est fasciné par les questions optiques, par les caissons d'illusion. Avec les instruments de visée qui ont été perfectionnés dans la seconde moitié du XVIIe siècle, on peut faire des pentes de l'ordre d'un centimètre sur un kilomètre. Et d'ailleurs, dans la plupart des jardins dont on est sûr que le nôtre est intervenu, vous avez un jeu de pentes et de contre-pentes qui sont presque imperceptibles pour le marcheur. Là, il peut développer de très subtils effets de perspective accélérée ou de perspective ralentie. Donc, donner l'illusion au promeneur que la statue qu'il voit au bout du jardin de Volvicon dans la perspective centrale est plus proche qu'elle ne l'est réellement, alors qu'elle est très éloignée en réalité.
Il faut savoir qu'on avait du mal à maîtriser un axe comme ça.
Jacques Coulon.
Si un jour vous avez le temps, vous pencherez sur les cartes de France. Vous savez que la carte de la France, elle avait une drôle de gueule pendant longtemps. Hein. Elle était... Voilà. Et puis tout d'un coup, on a réussi géométriquement, c'est-à-dire que les géomètres ont été capables de construire un axe. Et on a compris et mis ce qui a redressé toutes les mesures, c'est-à-dire la méridienne. Et on a dessiné un axe par rapport auquel toute la France est reconstruite. Et à ce moment-là, la France a ressemblé à la France. Et c'est exactement le moment où on a fait Versailles.
Et ça, c'est dû à des avancées techniques ?
Voilà, c'est exactement ça. C'est des avancées mathématiques, c'est des avancées dans les capacités à faire des relevés géomètres et à les mettre en place. Et on a l'axe de Versailles, et comme par hasard, on a la carte de France pour la première fois. Et ça, c'est évidemment assez passionnant de comprendre pourquoi il a fait ça, parce que tout d'un coup, il pouvait. C'est même là, je ne vous raconterai pas dans le détail des choses qui sont un petit peu compliqué parce que l'axe n'est pas vraiment perpendiculaire au château parce qu'on ne savait pas. Donc il y a un degré d'erreur qui avait déjà été faite sous Louis XIII puisque le bassin de la Tonne en bas était déjà en place. Donc il l'a conservé, mais il a fait après des effets de correction pour que le jardin soit parfait quand même. Donc on voit la conscience des petites erreurs qui évidemment seraient totalement imperceptibles. Donc c'est une espèce de perfectionnisme particulier, c'est-à-dire que c'était dans l'ordre de se dire on fait un travail... J'allais dire scientifique par rapport à ça.
Il faut bien se rendre compte que pendant très longtemps, on a dit qu'André Le Nôtre avait inventé le jardin à la française. Ce qui est maintenant, avec les recherches, je dirais, historique et conceptuel qu'on a fait sur l'histoire du jardin français au XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle prouve que Le Nôtre n'est pas l'inventeur, n'est pas le père du jardin à la française. Le modèle du jardin français du XVIIe siècle existe déjà au moins dès la fin du XVIe siècle, dans les toutes dernières années du XVIe siècle. Et l'un des premiers concepteurs du modèle français, horticole, c'est Claude Mollet l'Ancien.
Alors qu'est-ce qu'il apporte alors, en plus ?
Claude Mollet l'Ancien, lui, est l'héritier aussi d'un changement d'échelle dans la composition des jardins français. Ce changement d'échelle va se produire au cours du XVIe siècle. C'est-à-dire qu'on va quitter l'enclos médiéval, si vous voulez, à la Renaissance, pour développer la superficie des jardins. Il y a aussi l'influence de l'Italie qui vient s'ajouter au développement du modèle horticole français. Et André Le Nôtre, lui, il parachève en quelque sorte cette tradition française du jardinage et de l'art des jardins. Alors, il parachève, mais en même temps, je dirais, il porte une sorte d'apogée ce modèle horticole français.
Donc, il est le couronnement de plusieurs décennies de recherche.
Voilà, exactement. C'est, à mon avis, il sublime la tradition parce qu'il va quand même innover dans le sens où, avant lui, on n'avait pas un sens des modelés de terrain comme on va le constater avec ses grandes créations, que ce soit à Versailles, à Chantilly, à Sceaux, où on a effectivement une science du modelé de terrain qui est incomparable.
Patricia Bouchenaud-Deschien, on dit beaucoup que c'est avec les jardins de Vaux que le nôtre va réellement donner toute son ampleur à son art. Vous expliquez qu'au fond, ça commence bien plus tôt et que dès 20 ans, 22 ans, quand il est au service du frère du roi, Gaston d'Orléans, il développe déjà son art.
Effectivement, il y a deux choses. La première, c'est effectivement la légende tenace selon laquelle le nôtre aurait surgi Deus Ex Machina avec la grande fête de Vaux-le-Vicomte. On aurait découvert son talent et le roi jaloux l'aurait pris ainsi que toute l'équipe au service de Versailles. Alors ça, déjà ce premier point, il faut savoir qu'en août 1661, quand l'affaire se passe, le nôtre est déjà depuis au moins 6 mois justement auprès du roi à Fontainebleau, au point qu'il a donné une procuration à sa femme, il n'est plus à Paris, pour tout simplement créer le plus grand parterre du monde, qui est le parterre du Tibre à Fontainebleau. Donc vous voyez que déjà, il travaille déjà avant pour le roi. Il travaille depuis toujours pour le roi, comme son père et son grand-père, puisque c'est un officier du roi.
Je pense qu'il y a une vraie continuité entre le jeune Le Nôtre, qui travaille au jardin des Tuileries, qui va peut-être travailler au jardin du Luxembourg, qui va travailler sur d'autres chantiers qu'on va lui confier. Il a une commande privée pour des jardins d'hôtels particuliers, notamment à Paris, importantes. Et puis, effectivement, le fait que Nicolas Fouquet l'appelle à Vaux-le-Vicomte, là, c'est une consécration. C'est une consécration, mais ce n'est qu'une étape dans sa carrière. Hein, parce que ses compétences sont reconnues, ses talents sont reconnus, on se l'arrache. On l'appelle même à l'étranger, mais bon, souvent, il envoie ses collaborateurs directs ou des membres de sa famille. Donc, c'est, si vous voulez, le nôtre a suivi une carrière tout à fait logique. Voilà. En plus, un noblissement, hein, 1675, Louis XIV décide de l'anoblir. Là aussi, c'est quand même, je dirais, inouï. Dans un siècle, si vous voulez, où le travail manuel est, je dirais, dénigré par la noblesse, à part quelques métiers. Mais le métier de jardinier, depuis le Moyen-Âge, est l'un des plus bas métiers dans les différentes communautés de jardiniers, en tout cas à Paris, occupe un rang très très subalterne. Et voilà, donc on peut dire que le métier de jardinier, avec le nôtre, va acquérir ses lettres de noblesse, dans le sens figuré et littéral du terme.
C'est pour entrer dans la chambre du roi. Et donc là, suivant le rang auquel on appartenait, la proximité qu'on avait avec le roi, on entrait première, deuxième ou troisième grande entrée. C'est un honneur qui ne se refuse pas.
Patricia Bouchenaud-Deschien, nous avons l'honneur rare d'être ici, puisque Versailles est fermé aujourd'hui dans la chambre du roi, en face du lit de Louis XIV. Est-ce que le nôtre a eu l'occasion de venir ici ?
Alors, on n'a pas de traces écrites précises nous disant que le nôtre était dans la chambre du roi. Il est vraisemblable qu'il y ait été reçu. On sait surtout que le nôtre a été reçu dans les appartements les plus intimes, comme surtout, par exemple, le cabinet des préciosités ou le cabinet des raretés. C'est un honneur immense que d'être accepté dans ses pièces.
Est-ce qu'on peut parler d'amitié ? Parce que quand on lit votre biographie, on a l'impression qu'à certains moments, bon, ils sont d'une proximité qui peut étonner, et même le nôtre lui-même parfois s'étonne de la proximité qu'il a avec le roi.
Le nôtre est un habile personnage qui connaît bien la cour, donc les récits que nous avons qui en font quelqu'un qui s'étonne sont toujours à prendre avec des pincettes. Ils sont très proches pour une raison simple déjà. Quand Louis XIII meurt, Louis XIV n'a que 5 ans, le nôtre en a 30, donc ils ont une génération d'écart, et le nôtre est déjà un homme connu, parce qu'il a déjà des réalisations derrière lui, étonnantes, parce qu'il est déjà reçu par un certain nombre de grands seigneurs, et tout cela alors qu'il n'est pas encore, même pas nommé dessinateur du roi. Donc c'est un homme dont la carrière a commencé très très tôt. Et Louis XIV, en plus, avait confiance en peu de personnes, et la présence de le nôtre fait partie de ces personnes qu'il connaît depuis toujours, et donc qui le rassure. En plus, le nôtre est quelqu'un d'une très grande culture, d'une très grande finesse. Et c'est quelque chose, un point qui n'a jamais été abordé et qui est pourtant essentiel. Le nôtre est capable de déjeuner avec un Huygens ou un Ozou, donc deux membres de l'Académie des sciences. C'est quelqu'un qui est capable aussi d'avoir une conversation qui étonne les témoins quand il se rend chez le Bernin en 1665 et il arrive avec un des plus hauts, des plus grandes figures spirituelles de son époque, un certain Dom Combe qui était le supérieur des couvents des Feuillants, et c'est lui qui a quand même prononcé l'homélie funèbre de Rennes. Donc vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui étonne par cette qualité de conversation qui permet surtout de mieux comprendre en fait son vrai rôle. Son vrai rôle, il était conseiller du roi, c'est un titre honorifique normalement, et qu'il va transformer en véritable honneur, et effectivement il va toujours être auprès du roi, au point que Louvois va lui écrire très tard, le roi vous demande de toujours lui dire ce que vous pensez, c'est un privilège rare. Et puis surtout, il y a quand même cet épisode hallucinant qui est son voyage en Italie. Le voyage en Italie de Le Nôtre, c'est quand même quelque chose que on ignorait totalement. Il est parti avec 16 vaisseaux et 28 galères, c'est quand même pas n'importe quel voyage, il part en mission officielle, il part beaucoup plus tard qu'on ne l'a cru, fin avril 1679, après avoir laissé donc les plans des maisons royales sur lesquelles on travaille, et notamment Marly, et arrivé à Rome au terme d'un voyage extrêmement compliqué. Colbert, au bout de 15 jours, lui dit « Bon, c'est parfait, vous avez accompli votre mission, rentrez vite, on a besoin de vous ». Et Le Nôtre va en quelque sorte couper son portable et ne donnera des nouvelles de lui que presque 2 mois plus tard. On le retrouve à Venise et là, l'ambassadeur de Venise d'expliquer à Colbert que Le Nôtre doit encore visiter Modène, Mantoue, etc. Et en effet, il ira à Turin, il ira jusqu'à Pignerol voir son ami Fouquet qui meurt un mois après son passage. Et malgré ce retard, il va arriver, il va rentrer à la cour, il va être reçu royalement. Et puis, dernier point, tout à coup, on voit Le Nôtre représenté à côté du roi sur les grands tableaux du règne.
Lorsque Le Nôtre rencontre le pape, alors si mes souvenirs sont bons, c'est Innocent XI, donc qui n'était pas un pape facile, hein, puisqu'il avait maille à partir avec Louis XIV. Et alors Le Nôtre, donc, se serait précipité vers lui et l'aurait embrassé sur les deux joues. Voilà. Et lorsqu'on rapporte en fait cette anecdote à Louis XIV, les courtisans ne veulent pas le croire, on n'embrasse pas le pape, enfin bon. Et alors Louis XIV aurait dit, mais moi ça ne m'étonne pas, parce qu'à chaque fois que je reviens de campagne, Le Nôtre m'embrasse. Donc si vous voulez, cette anecdote, au-delà de l'anecdote, elle traduit, je pense, très réellement, je dirais, un caractère avenant.
C'est un personnage qui est jovial, qui effectivement doit avoir un très bon caractère, et il faut l'avoir, mais c'est en même temps quelqu'un qui a du caractère. Il va devoir se battre pour obtenir déjà le tracé de la terrasse de Saint-Germain comme il le souhaite, alors que ce n'est pas le plan prévu initialement. Il va devoir se battre pendant très longtemps jusqu'à ce qu'on puisse enfin réaliser le plan de Versailles tel qu'il le souhaite, et puis c'est quelqu'un qui ne sera pas toujours d'accord avec le roi. L'affaire Fouquet, la révocation de l'édit de Nantes, Port-Royal, le Palatinat, les troupes de Louvois qui brûlent le Palatinat. Il est quand même très étonnant qu'il n'y avait pas de portrait de Louis XIV chez Le Nôtre. Par contre, on trouve 2 portraits de Guillaume III d'Orange, donc principal opposant de Louis XIV, et puis un portrait de la Palatine. Ça, c'est tout à fait étonnant. Et s'il a certainement aimé le roi comme un fils, il n'en garde pas moins une très grande lucidité.
Dominique Garrigue, il y a un autre pan de la personnalité et de la vie de Le Nôtre qui est intéressante, c'est son côté collectionneur. Qu'est-ce que ça nous dit au fond du personnage et qu'est-ce qu'on peut comprendre à la fois de lui et puis peut-être aussi de son art en sachant qu'il collectionnait ?
Le Nôtre est un véritable amateur d'art qui a un goût très sûr. Quand même, il collectionne des tableaux de maîtres italiens et français parmi les plus grands. Lorsqu'il cède donc une partie de ses collections à Louis XIV, eh bien, parmi les plus belles pièces qui se trouvent au Louvre, donc on a des tableaux d'Albane. Donc le Nôtre, je dirais, a quand même cet esprit effectivement de l'amateur d'art qu'il partage avec l'élite aristocratique de son temps.
Il faut imaginer une antichambre plus 3 cabinets. plein à craquer. Il faut savoir que le nôtre, à l'âge de 80 ans, a eu ce geste absolument aussi étonnant que magnifique de donner 21 tableaux, une trentaine de bronzes, des porcelaines au roi. Mais il avait encore chez lui, à sa mort, 95 tableaux dans une seule pièce octogonale surmontée d'un lanternon. C'est considérable. Sans compter, dans la même pièce, au-dessus, vous aviez des médaillons en marbre et d'autres sculptures. C'était un très, 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 très grand collectionneur dont les collections sont mentionnées depuis très longtemps, depuis déjà une trentaine d'années dans les guides de Paris, et donc on allait voir ses collections.
Il collectionne beaucoup de médailles, ça c'est assez curieux. On pourrait croire qu'il est plutôt intéressé par les livres sur les jardins. Mais là, il semblerait que quand on a fait son inventaire après décès, notamment des livres de sa bibliothèque, il n'y a aucun traité de jardinage. Peu de livres sur les jardins. Donc il y a quelque chose qui interroge.
Il n'a pas écrit de traité. Parce que, peut-être n'a-t-il pas eu le temps, mais surtout aussi, il était dyslexique.
Jean-Pierre Le Dantec, architecte.
Et il écrivait un français absolument hallucinant, y compris dans la syntaxe. Ce qui fait qu'il valait mieux qu'il n'ait pas peut-être écrit de traité. Et ça lui a d'ailleurs, pas joué un tour, mais c'est que du même coup, il n'a pas été retenu par Perrault dans la liste des grands artistes qui ont fait le XVIIe siècle, le grand siècle.
Mais pourtant, c'est un théoricien quand même.
Mais de fait, oui, bien sûr. Bien sûr, il a formé des gens.
Ses écrits, on a dit qu'ils étaient rares. C'est vrai. Mais ils sont quand même suffisamment nombreux et suffisamment étalés dans le temps pour nous permettre de retrouver des constantes. Dans ses lettres, ses devis, ses contrats, etc., il y a deux mots qui arrivent toujours, indissociables, qui sont non seulement la grandeur dont on vient de parler, mais également le naturel. Et ce naturel, c'est quelque chose qui m'a étonnée au cours de ma recherche, que j'ai pu confirmer dans les différents domaines qu'il aborde, que ce soit la botanique. Par exemple, le nôtre, avec des académiciens des sciences, invente un gazon avec des fleurs, donc qu'on laisse naturel et qu'on n'arrosera pas et qu'on ne fauchera pas. Donc ancêtre de la jachère fleurie.
Justement, le nôtre, moi je ne sais pas exactement où le placer dans la discussion entre les anciens et les modernes. Certains historiens aujourd'hui, qui ont un peu travaillé là-dessus, le placeraient plutôt du côté des anciens, dans la mesure où lui-même, justement, étant lié à Lebrun, qui était lui un leader des anciens, donc qui travaillait plutôt avec la tradition. Et d'autres qui l'ont placé par du point de vue des modernes, parce que Perrault a dit qu'on aurait fait venir à Versailles pour calculer un certain nombre d'ouvrages hydrologiques.
Parce que Perrault était le meneur des modernes.
Oui, Perrault était le meneur des modernes. Et il affirme que des savants comme Réaumur, par exemple, sont venus sur le terrain et l'Académie des sciences serait venue sur le terrain. Ce qui n'est pas évident, c'est contesté par d'autres historiens
aujourd'hui. Mais son esprit a le nôtre.
Oui, son esprit, mais moi, je pense que c'est essentiellement quand même un pragmatique. Je pense qu'il a surtout fait appel au savoir traditionnel, mais qu'en même temps, je le pense suffisamment ouvert à la modernité de son temps pour avoir pu, quand ça lui semblait nécessaire, penser, faire appel à des compétences de nouvelles. Je ne le vois pas comme un dogmatique qui serait enfermé dans un camp par rapport à une dispute théorique de cette époque. Je le vois plutôt comme un homme ouvert.
Alors vous, en tant que paysagiste, si vous deviez résumer l'intention de Le Nôtre à Versailles, comment est-ce que vous le feriez ?
Les intentions qu'il a eues, elles sont multiples. Elles sont multiples. C'est lui qui a installé cette espèce de gradation. Par exemple, s'il y a des règles qu'on peut comprendre, elles sont à la fois dans la continuité, c'est-à-dire rien ne brise le regard du roi, en tout cas, et l'espace central est un espace vide, assez peu construit. Quelques points ou du vide, des bassins, les tapis verts, des choses comme ça, qui sont le regard du roi qui file. Et autour, tout s'organise autour de ce regard. Autour de ce regard, c'est des constructions, c'est des sculptures, c'est tout ça, mais c'est aussi des grandes allées. Et ces grandes allées, il faut les imaginer telles qu'elles ont été faites dans leur efficacité structurelle, c'est-à-dire pleines de gens les jours de fête. En fait, ce jardin, ce parc, il peut paraître très dur, très sévère, un peu ennuyeux, un peu trop grand. Il est fait pour être plein. Par exemple, c'est l'opposé exact des jardins anglais qui sont faits pour... On est seul dans une situation de privilège. Ici, en fait, étonnamment, c'est fait pour être plein. Et c'est fait pour être plein parce que sans ça, c'est trop vide. Donc, il est fait pour avoir des gens. Et pourquoi il y a si peu de fleurs? Pourquoi il y a si peu de choses colorées? C'est qu'en fait, c'est les gens qui étaient colorés. En fait, le vrai décor du regard du roi, c'est l'ensemble des gens qui sont venus l'acclamer, je dirais. Et imaginez les gens extrêmement habillés de manière extrêmement colorée, c'est eux les massifs.
Après, tout dépend du point de vue et de l'échelle que l'on adopte.
Aurélia Rostin, docteur en histoire de l'art.
Si l'on regarde ces jardins de loin, par exemple du premier étage d'un château ou d'un hôtel, évidemment, tout ce qu'on va voir, ce sont les verts des arbres, des ifs et le bleu de l'eau où le ciel se reflète. Mais évidemment, si on se rapproche, là, on verra sur les bordures ce qu'on appelait à l'époque l'émail des fleurs, c'est-à-dire les coloris. Et là, on avait des couleurs chatoyantes entre le blanc et le jaune des narcisses et des jonquilles. Les oreilles d'ours, on les avait pas dans des parterres de broderies au pied du château, mais enfin, ce sont des fleurs qui sont aussi très colorées. On avait aussi la brique pilée rouge sombre qui tranchait avec le vert sombre du buis des broderies, le vert aussi des taupières, soit des troènes ou des ifs. Il y avait aussi du charbon pilé qui était de couleur noire. On peut pas dire que ces jardins étaient monochromes, même si évidemment il y avait les dominantes des aplats de vert et bleu.
Nous, ce qui nous intéresse, c'est la manière dont le nôtre a réussi à fabriquer ces structures et à installer des règles qui sont des règles qu'on ne sent pas forcément, mais qui deviennent une espèce d'évidence. Par exemple, jamais de végétation au ras d'un château. On commence toujours par des choses extrêmement construites, extrêmement dures, comme matière, s'il s'agit de
minéral,
la pierre, du bronze, des choses comme ça. Quand on va avancer, vous voyez, qu'est-ce qui va se passer? On va passer déjà d'un très très dur, quand on va être dans le château, où les revêtements sont durs, à l'extérieur, qui est un sol déjà un petit peu minéral, mais quand même un petit peu souple. Et puis, la forme des choses qui se succèdent va passer d'une forme extrêmement rigoureuse, comme les embarchements qui sont au ras, presque rien,
angle
très sobre, à des choses qui vont être un peu plus folles, comme les sculptures, ou des choses qui vont être tenues, bien que déjà végétales. C'est-à-dire, la manière dont sont dessinées les pelouses, elles sont dessinées d'une manière qui n'est pas tellement différente
comme
de celle de la margelle.
Autour des bassins.
C'est un trait autour des bassins. Et tout d'un coup, on va avoir des ifs, qui vont être le plus minéral des arbres. C'est-à-dire, dans une forme impeccablement contenue, sculptée et permanent. C'est-à-dire, c'est des persistants. Donc, il n'est pas question de mettre des caducs. Et on voit que plus on avance comme ça, plus on va aller au fond, plus on va se trouver dans une situation où ça se défait progressivement. C'est-à-dire qu'on va accepter que les arbres soient un peu moins taillés. Plus on est près de l'axe, plus ils sont taillés. Plus on est près du château, plus c'est tenu et taillé aussi. Et on va glisser jusqu'à des essences qui, au début, sont extrêmement artificielles, comme l'if, comme tout ça. Et puis, quand on va filer plus loin, de plus en plus naturelles. Pour terminer avec des peupliers, quand on va être très loin, en passant par des tilleuls qu'on va avoir avant. Enfin, des choses qui vont se construire progressivement au fur et à mesure qu'on arrive. Et ça, c'est une grande règle de composition. Il n'y a pas de pittoresque, il n'y a pas de moment sympathique comme ça. C'est une très vaste structure.
Voilà ce que dit Girardin à propos de Le Nôtre. Le fameux Le Nôtre, qui fleurissait au dernier siècle, acheva de massacrer la nature en assujettissant tout au compas de l'architecte. Il ne fallut pas d'autre esprit que celui de tirer des lignes et d'étendre le long d'une règle celle des croisées du bâtiment. Aussitôt, la plantation suivit le cordeau de la froide symétrie. Le terrain fut aplati à grands frais par le niveau de la monotone planimétrie. Les arbres furent mutilés de toutes manières, les eaux furent enfermées entre quatre murailles. La vue fut emprisonnée par de tristes massifs et l'aspect de la maison fut circonscrit dans un plat parterre découpé comme un échiquier où le bariolage de sable de toutes couleurs ne faisait qu'éblouir et fatiguer les yeux. Aussi, la porte la plus voisine pour sortir de ce triste lieu fut-elle bientôt le chemin le plus fréquenté. René-Louis de Girardin est l'auteur d'un traité sur la composition des paysages qu'il a écrit une quinzaine d'années avant la Révolution. Et c'est aussi le créateur des jardins d'Ermenonville, donc l'un des jardins qui marque le début des jardins à l'anglaise en France.
On dit, Jean-Pierre Le Dantec, que le jardin à l'anglaise est un jardin pour les peintres et le jardin français, un jardin pour les metteurs en scène. Qu'est-ce que ça signifie ?
Le jardin anglais, bon, qui là encore, c'est une appellation un peu lâche. Hein. Bon, c'est comme on dit le jardin français, bon, qui a essaimé dans toute l'Europe à ce moment-là, le jardin anglais. Bon, c'est vrai qu'à partir de la Révolution anglaise, et au début du XVIIIe siècle, il apparaît un autre genre de jardin qui s'inspire effectivement de la peinture et de la peinture de paysage. Paradoxalement d'ailleurs, de la peinture de paysage, par exemple de Poussin, qui était un ami de Lenôtre et dont Lenôtre collectionnait les tableaux. Donc il va y avoir une manière de penser prétendument naturelle. Je dis prétendument naturelle parce que, en fait, souvent ces jardins coûtent au moins aussi cher, largement et même plus cher au mètre carré, si je puis dire, ou à l'hectare, que les jardins de Lenôtre.
Je raconte souvent cette anecdote parce qu'elle m'est arrivée et que ça a été très très puissant. Un matin, je me suis retrouvé sur la pièce d'eau des Suisses. Il faisait froid, c'est très brumeux, et il y avait une impression, une émotion, qui était non pas une émotion sur la géométrie du bassin, qui existait presque plus que comme contenant, mais sur l'humidité, l'épaisseur de l'air, qui est une chose purement naturelle. Et je pense que la force de ce jardin, c'est ses rapports de dimension, la manière dont ça renvoie au ciel, et que les émotions ou que les structures liées à la nature, ils sont plutôt très puissantes. En fait, la première chose qu'on dit quand on revient de Versailles, c'est généralement qu'on a eu froid, quoi, ou que c'était très humide, ou que voilà, ou qu'il y a eu du vent. Vous voyez, ici, on est dans une situation où le climat existe très fortement. Tout change de couleur comme ailleurs. Et quand je le compare à des lieux où on a voulu imiter la nature, je vous parlerai par exemple le parc Montsouris. Vous baladez là-dedans, les gens qui ont fait ce parc étaient persuadés de refaire de la nature parce que c'était compliqué, chichiteux, des petits trucs, dans lesquels on est au contraire dans l'artefact le plus petit. En fait, il n'y a pas d'émotion liée à ça. Il y a de la complexité, peut-être de l'amour des plantes, sur des petites choses, mais il n'y a pas d'émotion puissante. Et donc, finalement, moins d'idées de nature que dans ces parcs qui sont notés, géométrisés. En fait, ce parc, c'est à la fois un modèle pour l'agriculture, mais en même temps, il a pris modèle sur l'agriculture. Et ce parc, il est dessiné comme avec le socle d'une charrue, quoi. Alors que si on pense au jardin anglais, on a au contraire des courbes dans tous les sens. Mais si on regardait le jardin en coupe, on se rendrait compte que les courbes dans tous les sens, c'est des parfaites horizontales. Et en fait, le vrai modèle, c'est une vache qui se balade dans une colline. Elle va toujours rester au même niveau pour ne pas se fatiguer à monter et à descendre. Regardez en montagne, et elles font des courbes en plan, mais des droites à l'horizontale. Alors qu'ici, on serait plutôt à des droites sur le plan et au contraire des décrochements dans la coupe.
C'est pas gentil pour les Anglais, ça.
Non, c'est pareil.
Comparé à des vaches, quand même.
Oh, je les compare. Non, je compare pas. Mais je compare à l'origine, parce que c'est l'origine d'une esthétique. Et l'origine d'une esthétique, c'est que c'est un pays d'élevage. Donc leur modèle esthétique, c'est l'élevage. Donc c'est logique. L'un n'est pas mieux que l'autre. Mais l'un n'est pas plus naturel que l'autre.
Jardins étaient chers à aménager et je pense ceux de Lenôtre tout particulièrement.
Parmi les personnes qui critiquent beaucoup le coût en fait de ces jardins, il y a par exemple Primi Visconti.
Oui, et Primi Visconti critique non pas tant Lenôtre que le fontainier qui est chargé de mettre en œuvre ces fontaines. Le fontainier est un certain Francini, fils d'un Florentin, homme gros de corps mais encore plus d'esprit. Il coûte beaucoup au roi parce que pour exécuter les plans de Lenôtre, il est fort ignorant. Rien que pour les aqueducs, il est cause que l'on a mis sous terre du plomb pour plus de 7 millions de valeurs. Il n'y a pas de mine au plomb comparable à celle de Versailles. La dépense pour faire venir l'eau des étangs est bien pire. On a construit des moulins à vent. Mais rien que pour un petit jet d'eau sur un terre-plein devant l'appartement du roi, on est obligé d'entretenir 150 chevaux pour élever l'eau. Ce qui est véritablement grand de la part du roi, mais le fontainier fait une bien sotte figure. Lenôtre présentait au roi des plans magnifiques, lavés de vert et de bleu. Il avait des idées géniales, grandioses. Et le roi, qui aimait énormément les jardins, acceptait certainement les propositions de Lenôtre. Mais il fallait qu'ensuite, derrière, l'intendance suive. Et l'intendance, c'était notamment Franchini. Et l'eau était difficile à trouver à Versailles. Au début, c'est ce que dit Primi Visconti, on pompait l'eau dans l'étang de Clagny, qui, soit dit en passant, s'est trouvé à sec au bout de 20 ans, ce qui prouve au passage que les machines de Franchini fonctionnaient plutôt bien. Mais il fallait toujours de nouvelles fontaines et c'était une course à l'eau permanente à Versailles, puisque une fois que le roi avait fait fabriquer certaines fontaines ou certains jeux d'eau, il en voulait d'autres et c'était une course sans fin.
C'était un endroit relativement marécageux, dans lequel, justement, il a eu l'idée assez géniale de capter l'eau de ces marécages pour en faire le grand canal. Donc, il vient là une sorte d'écologiste avant la lettre aussi, qui récupère ce qui est là pour le faire fonctionner.
C'est du drainage, en fait.
Oui, c'est du drainage. Mais d'autre part, il avait à faire venir de l'eau d'assez loin pour les jeux d'eau, où là, il y a besoin d'avoir des différences de niveau. Et donc, il a été aidé par des techniciens, mais lui-même, évidemment, avait un savoir très pointu dans tous ces domaines.
Je pense que Lenôtre voyait les choses en grand. C'est d'ailleurs ce que ses contemporains disent de lui. De là à penser qu'il était peut-être un peu mégalomane, parfois il n'y a qu'un pas. Et effectivement, on peut se demander si parfois il ne se laissait pas emporter par son enthousiasme et par son génie créateur, parce qu'un autre visiteur, un Suédois, Tessin, qui est à la cour de Versailles en 1687, parle d'un de ses projets magnifiques que Lenôtre a pour Versailles. Il s'agit d'une cascade située de l'autre côté de la pièce des Suisses, juste en face de l'orangerie. Et Tessin dit que Lenôtre lui en a montré le projet qui est magnifique. Mais ajoute-t-il, on ne pense pas qu'il sera réalisé parce qu'il fait près de 100 tonnes de long et qu'il faudrait une autre Seine pour nourrir ces jeux d'eau. 100 tonnes suédoises, c'est à peu près 50 mètres. Donc Lenôtre avait conçu en face de la grande orangerie une cascade qui faisait à peu près une cinquantaine de mètres de largeur. Et cette cascade, de fait, n'a jamais vu le jour.
Une fois que Lenôtre a accompli l'essentiel de son travail, même s'il ne s'arrêtera pas réellement de travailler.
On a des traces de commandes jusqu'à un an avant sa mort. Oui.
Quelle va être l'évolution de sa vie ?
Ce sont des années qui restent encore riches. Il prend sa retraite en 1693, à l'âge de 80 ans. Il meurt en 1700, donc il nous reste 7 années. Sa retraite, c'est en tant que dessinateur et jardinier du roi. Il recouvre en quelque sorte sa liberté, et c'est à partir de ce moment-là où il va travailler, par exemple, pour Guillaume III d'Orange, pour des projets, que ce soit pour l'Angleterre ou pour la Hollande. Donc il va retrouver une marge de manœuvre, il va être consulté par les souverains étrangers. C'est ainsi qu'au Danemark, eh bien, pour Copenhague, on a un projet d'architecture pour le château et c'est en tant qu'architecte qu'il est consulté pour la façade du château de Copenhague. Donc on voit un Lenôtre avec cette palette qui est extrêmement riche. Certes, il était le jardinier paysagiste et tout ce qu'on a pu dire génial en matière de jardin, mais c'était aussi un hydraulicien, c'était aussi un véritable architecte et puis ce contrôleur général, ce collectionneur, une figure impressionnante. Mais comme il y en avait d'autres aussi dans ce siècle, et c'est ce qui est assez réjouissant, ce sont tous ces mélanges de savoir, de savoir-faire qui montrent en fait ce siècle magnifique qui était celui de Louis XIV.
Il était revenu à Paris une fois qu'il avait décidé de ne plus servir le roi. Il avait quand même 80 ans. Il habitait dans un appartement des Tuileries devant le jardin que son grand-père avait créé pour Catherine de Médicis, que son père avait transformé pour Henri IV. ce jardin où avaient travaillé ses beaux-frères, son neveu, son petit-neveu, des générations très importantes de jardiniers du roi, et notamment les Mollets. Et donc, il vivait aux Tuileries, dans ce lieu chargé de mémoire déjà, un jardin qui avait déjà près d'un siècle d'existence, où toute sa famille avait travaillé. Et il avait par ailleurs un petit jardin. Et quand on voit le plan du palais des Tuileries, on voit qu'il y a un jardin de Monsieur Lenôtre. Et je me demande ce qu'il y avait dans ce jardin. C'est assez amusant de se dire qu'il avait un petit jardin privatif alors qu'il était au pied de l'un des plus grands jardins de Paris.
Il meurt à 88 ans. 3 enfants, tous morts.
Oui. Oui.
Mais en même temps, beaucoup de familles autour de lui. Est-ce qu'il y a aussi un drame familial chez Lenôtre?
En fait, il y a le premier drame, c'est la mort de ses enfants. Ça, je pense que c'est un point qui est très important et qu'on ressent, je dirais, en se rendant dans la maison de Lenôtre grâce à son inventaire après décès ou la position de ses scellés. C'est-à-dire, on retrouve tous ces détails qui touchent à l'enfance et qui sont extrêmement émouvants. Ensuite, il y a un second drame, je dirais. Il a eu donc des neveux et des petits-neveux dont il a été extrêmement proche, au point d'être même le subrogé tuteur de certains. Et malheureusement, comme dans toutes les vies de famille, les choses n'ont pas été simples avec tous. Non, c'est une vie de famille qui n'a pas été complètement simple. C'est quand même quelqu'un qui travaillait 6 jours sur 7. Le 7 pour le roi, le 7e jour était donc pour le reste de sa clientèle. Et donc, c'est quelqu'un qui a énormément travaillé. Donc, avec une épouse qui a été très seule. Et donc, le rôle de tous ses neveux et nièces a été très important dans leur vie. Alors, après la mort de Lenôtre, il en est resté 2. Claude Dégot et Armand-Claude Mollet. L'un et l'autre étaient architectes et jardiniers, puis contrôleur général des bâtiments. Donc l'un et l'autre, de magnifiques figures qui ont connu une partie du secret de Lenôtre.
C'était Une vie, une œuvre, André Lenôtre, 1613-1700, avec Patricia Bouchenaud-Deschamps, historienne, auteure d'une biographie d'André Lenôtre, Dominique Garrigue, historien des jardins et des jardiniers, Jacques Coulon, paysagiste, auteur d'une étude sur le parc du château de Versailles, Jean-Pierre Le Dantec, architecte, ancien directeur de l'école d'architecture de Paris-Lavillette, et Aurélia Rostin, docteur en histoire de l'art, spécialiste des jardins. Prise de son, c'était Yves Lehors, au mixage Valérie Lavalard, attaché d'émission Laurence Genepin, une émission de Mathieu Garrigou-Lagrange, réalisée par Marie-Laure Ciboulet.
On est encore dans cet héritage aujourd'hui, en France ou peut-être ailleurs?
Je pense que c'est un héritage lui aussi subliminal. C'est-à-dire que personne ne revendique directement, ça fait très désuet de dire, je vais vous faire en plus très prétentieux, de dire attendez, je vais vous appliquer des principes constructifs qui sont liés à ça. Mais dans ma formation, pour moi, c'est effectivement une dynamique interne, disons, même si ce que je dessine n'a rigoureusement rien à voir avec ces jardins classiques. Mais par contre, les règles, les principes d'alignement, des choses comme ça, disons que ce qui m'intéresse dans Lenôtre, c'est sa capacité à avoir passé, à traverser des siècles, quoi, ces 400 ans depuis sa naissance, bon, disons 350 ans depuis son travail de création, et que ça reste quelque chose par rapport auquel on puisse faire référence, alors que tout a changé autour. Ce qui est intéressant, c'est ça, pour moi. Parce que les paysages qu'on fait, si c'est seulement l'image momentanée, une espèce de décor, un accompagnement, c'est pas très intéressant.
C'est une œuvre d'art, un jardin de Lenôtre?
Oui, c'est une œuvre d'art qui bouge en permanence. Un jardin évolue au rythme des saisons, donc, et puis au fil des années. C'est en même temps ce qui fait sa beauté, sa fragilité. C'est un organisme vivant.
Cette émission est téléchargeable durant une semaine et vous pouvez la réécouter en ligne pendant 3 ans directement sur le site de France Culture. Sachez que vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux. La semaine prochaine, dans Une vie, une œuvre, nous vous proposerons une émission sur Apollinaire. Mais dans un instant, c'est avec Augustin Trapenard que vous avez rendez-vous. Très bon après-midi à toutes et à tous.